Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens. Esprit Saint, éclairez l'intelligence de notre cœur pour entrer plus avant dans ce mystère pascal et fais grandir en nous le feu de ta charité. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce grand et saint samedi, comme dit la tradition. Nous avons vécu ce bel office des ténèbres et entendu ces textes à la fois bibliques et patristiques qui nous aident à entrer dans l'intelligence de cette journée très singulière. C'est la journée sans liturgie. Alors, nous avons célébré quand même la liturgie des heures, mais vous le savez, il n'y a pas de messe et de sacrement célébré aujourd'hui, hormis le sacrement de la réconciliation. C'est une journée de grand repos. Hier soir, le Père Paul, dans son homélie, nous disait que, au soir du Vendredi Saint, Jésus avait achevé son travail de salut, son œuvre, son labeur pour sauver le monde. Et Dieu sait que ça a été une journée laborieuse, douloureuse. Nous l'avons suivi sur son chemin de croix. Et voilà qu'aujourd'hui, au lendemain de ce vendredi, en ce samedi saint, c'est le repos. Le corps de Jésus est déposé au sépulcre et nous attendons, nous espérons. C'est le repos du sabbat, du shabbat, selon la tradition biblique, la tradition juive. C'est le septième jour de la semaine, le jour où Dieu, ayant achevé son œuvre de création, se reposa, nous dit le récit de la Genèse. Et Jésus connaît corporellement, dans son humanité, ce repos. Il repose en paix, comme nous disons de nos défunts dans nos cimetières. Il repose en paix. Il y a pour ce samedi saint un climat de relative sérénité après la douleur, les émotions de la passion hier. Il y a comme un apaisement, une certaine détente, même si c'est empreint de tristesse et de gravité, puisque la pierre est roulée sur le tombeau. Jésus n'est plus là, il n'est plus vivant, il est absent à nos regards. Et il y a ce vide, ce manque, cette solitude qu'évoquait la liturgie des heures à l'instant dans l'office des ténèbres. Mais on retrouve là quelque chose de la sérénité de nos cimetières. Et vous voyez, lorsque nous perdons un être cher, nous vivons un Vendredi Saint. Il y a cette déchirure terrible de la séparation. Il y a ces pourquoi au moment où cet être meurt et disparaît de notre quotidien, de l'emprise de notre affection, où il nous échappe. Et puis, il y a la mise en terre et il y a un certain repos, même si cela reste douloureux et triste. Il y a comme un apaisement. Et lorsque nous allons prier dans nos cimetières, faire mémoire, notamment au 2 novembre, eh bien, il y a cette relative paix. Vous voyez, c'est la paix du samedi saint. Après le vendredi, il y a ce repos et cette attente. Voilà, nous attendons pour nos défunts ce que nous attendons aujourd'hui dans le Triduum Pascal pour Jésus, ce relèvement. Et nous avons entendu cette belle lecture à l'office des Laudes à l'instant, Osée chapitre 6, les versets 1 et 2. Au deuxième jour, tu nous sauveras, le troisième jour, tu nous relèveras. Le troisième jour. Voilà, nous attendons ce troisième jour, hein. Que célébrons-nous aujourd'hui? Jeudi, nous nous sommes intéressés, bien sûr, au sens du repas pascal, à cette scène du Seigneur, à son arrière-fond biblique. Nous avons contemplé aussi le geste du lavement des pieds. Jésus, serviteur, qui anticipe par ce geste le sens du don de sa vie le vendredi. Hier, vendredi, nous avons approfondi le signe de la croix et le sens du don de sa vie par Jésus. Il est ce serviteur souffrant prophétisé par Isaïe. Vous avez vu comme c'est impressionnant, hein, cette première lecture du Vendredi Saint, combien on reconnaît les traits de la passion de Jésus, alors que ce texte a été écrit par Isaïe quelques 7 siècles avant. Impressionnant, hein ? Alors Isaïe parlait du serviteur comme étant une figure du peuple d'Israël lui-même, mais lorsqu'on comprend qu'il décrivait aussi, sans le savoir, mais dans la puissance de l'Esprit-Saint, celui qui serait le serviteur par excellence, Jésus, eh bien on ne peut qu'être impressionné par l'œuvre de Dieu à travers les siècles et cette longue préparation par le peuple d'Israël de la venue du Messie. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, donc ce jour de silence et de recueillement. Pas de messe comme hier et même pas de communion. Voilà, c'est le jour sans communion, parce que cette nuit, ce sera déjà demain, ce sera déjà dimanche. Hein. La vigile pascale, c'est le début du dimanche, vous savez, liturgiquement. Hein. Dans les fêtes liturgiques, la fête commence toujours la veille. Comme pour la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Hein, le récit de la création fait commencer les journées par le soir. Et c'est pourquoi nos fêtes liturgiques commencent la veille au soir avec les premières vêpres. Donc ce soir, cette nuit, en entrant dans la fête de Pâques, ce sera déjà la journée de Pâques et nous renouvellerons le oui de notre baptême. Je voudrais juste vous partager quelques mots du Saint-Père prononcés hier au Colisée à Rome. Il y avait quelques 20 000 personnes pour ce chemin de croix au Colisée. Et voilà ce que disait le pape François. « Seigneur Jésus, donne-nous toujours la grâce de la sainte honte. » C'est une expression typique de François, ça. Il relève que quand nous péchons et quand nous prenons conscience de notre péché, cela suscite en nous de la honte. Et il dit « tant mieux, c'est bon pour notre conversion, voyez, de prendre conscience que le péché nous fait honte parce qu'il fait du mal, voilà, aux autres, à moi et au cœur de Dieu. » Donne-nous toujours la grâce de la sainte honte. Donne-nous toujours la grâce de la sainte repentance. Ton amour est notre espérance. Seigneur Jésus, donne-nous toujours la grâce de la sainte espérance. Voilà, ça peut être notre prière de ce samedi saint. Seigneur, donne-moi toujours la grâce de la sainte espérance. Et puis, il a eu cette expression assez forte, hein, en contemplant le bon larron sur la croix à côté de Jésus, qui entend cette promesse d'être dans le paradis avec Jésus aujourd'hui même, eh bien le pape nous dit que l'enjeu pour nous aussi, c'est de voler le paradis. Voilà. Il compare le bon larron à un voleur de paradis, parce que vous voyez, il a eu une vie de péché, et puis il se tourne vers Jésus en demandant sa miséricorde, et Jésus l'accueille dans son paradis. Donc comme le bon larron, il nous invite à voler le paradis à genoux devant la miséricorde de Jésus. Voilà. Donc si nous n'avons pas encore reçu le sacrement du pardon aujourd'hui, eh bien allons-y, hein, volons le paradis en nous mettant à genoux devant la miséricorde de Jésus. Alors nous continuons cette retraite en 3 dimensions, détachement, disponibilité, décision. Nous sommes au cœur de cette disponibilité intérieure, hein, que le carême a préparée, que nous avons essayé de vivre aussi en nous détachant de tout ce qui pouvait nous retenir loin du Seigneur. Et nous sommes donc disponibles à la grâce de Dieu tout au long de ce jour. Demeurons, hein, dans cette disponibilité intérieure. En priant ce matin et en contemplant à nouveau cette superbe fresque que vous avez devant les yeux, je voyais cette position de prière de Sainte Marguerite Marie qui exprime la disponibilité. Vous voyez ce geste d'orante, hein, les bras écartés, levés, qui dégage du coup le cœur. Hein, c'est donc une position de prière, c'est une position de disponibilité et de vulnérabilité. Quand on est comme ça, on ne peut plus se protéger. Vous voyez, on est exposé à l'autre et donc au Seigneur, hein, dans le travail qu'il veut opérer en nous. Voilà, ce geste de Marguerite Marie exprime avec son corps son attitude intérieure, son attitude spirituelle de disponibilité à la grâce. Voilà, c'est ça qu'il nous faut vivre et demander au Seigneur de vivre si nous avons de la peine. Souvent dans notre vie spirituelle, on est comme ça, vous savez. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il peut toujours causer le Seigneur. Hein. On a les écoutilles bien fermées, bien verrouillées, et donc il peut parler, mais voilà, c'est comme je le disais hier, c'est l'eau qui coule sur les plumes du canard. Quoi. Ça touche pas beaucoup le cœur du canard. Hein. Voilà. Or, quand on est comme ça, là, il y a moins de barrières, voyez. Il y a moins de protection. D'ailleurs, c'est la position de Jésus, hein, vous avez remarqué. Il y a comme une symétrie, un miroir entre la position de Marguerite Marie et la position de Jésus. Jésus en croix, il a les bras ouverts aussi. Il est plus que vulnérable, il est blessé. Il est blessé par l'amour qu'il donne et qu'il ne reçoit pas. Hein, ces ingratitudes, ces indifférences dont il souffre et dont il va partager la souffrance à Marguerite Marie ici même dans cette chapelle. C'est la position du prêtre à la messe. C'est la position, vous voyez, d'intercession de l'Église qui prie pour le monde, hein, cette longue prière universelle que nous avons eue hier. Voilà, cette position de l'orante. Elle traduit, voilà, la disponibilité intérieure que nous voulons vivre aujourd'hui. Soyons vulnérables, rendons-nous vulnérables à la parole de Dieu et à l'Esprit Saint. Alors, je vais reprendre les trois fils, hein, le fil de l'Écriture, celui de l'enseignement de l'Église et celui de notre vie de disciple. On va commencer comme les autres jours et principalement par l'Écriture, en reprenant le récit de Saint Jean au chapitre 19, dans la suite de ce que nous avons lu hier. Donc je vais lire ce matin les versets 38 à 42. Saint Jean 19, 38, 42. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait déposé encore personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Pour ceux qui sont allés en pèlerinage à Jérusalem, vous aurez sûrement été surpris la première fois en entrant dans la basilique du Saint-Sépulcre par le fait que dans la même église, nous trouvions à la fois le Golgotha, le rocher du calvaire où Jésus a été crucifié, et le tombeau, le sépulcre. C'est dans la même église, parce que ce n'est qu'à quelques dizaines de mètres. Et ça correspond au récit de Saint Jean. Vous voyez, il y avait un jardin tout proche. Donc on n'a pas fait des centaines de mètres pour apporter le corps de Jésus et pour le déposer dans le tombeau. On a fait quelques dizaines de mètres à peine. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est donc le même édifice qui recouvre les deux lieux. Il y a ce jardin. Alors je l'évoquais hier pour vous remettre un peu la topographie des lieux. À la sortie de la Jérusalem du temps de Jésus, il y avait donc cette ancienne carrière de pierre qui n'était plus exploitée depuis déjà quelque temps, qui était devenue un cimetière et un jardin. Voilà. Souvent, nos cimetières ont des allures de jardin. Vous voyez, c'est encore plus vrai si on va dans les cimetières militaires en Normandie. Voilà, il y a souvent une belle pelouse, vous voyez, il y a des arbres. C'est un lieu de recueillement, mais d'une relative paix. Et c'était ça aussi aux portes de Jérusalem. Il y avait cette ancienne carrière devenue cimetière et jardin. Mais si Saint Jean insiste tellement sur la dimension de jardin, c'est sans doute pas uniquement par souci d'être au plus près de la réalité historique. Il veut être près aussi de la signification biblique et théologique de ce qui se passe. Parce que quand on entend jardin, ça nous fait penser à quoi ? À l'Éden, dans la Genèse, ça peut nous rappeler aussi que, et la liturgie l'a chanté ce matin, Jésus est arrêté dans un jardin. Vous voyez ? Le jardin de Gethsémani, hein, au Mont des Oliviers. Il est arrêté dans un jardin et il est mis au tombeau dans un jardin. Et effectivement, ce jardin, ces jardins de la Passion, nous renvoient au jardin des origines, hein, dans le livre de la Genèse, le jardin de l'Éden. Comme si, finalement, Jésus était celui, je dis comme si, mais c'est vrai. En tout cas, Saint Jean veut nous aider à faire le rapprochement, que Jésus est celui qui va nous réintroduire dans le jardin dont le péché des origines nous a exclus. Hein, vous pourriez relire aujourd'hui Genèse au chapitre 3, hein, à partir du moment où le serpent vient semer la pagaille dans la création de Dieu. Parce que le péché d'Adam et Ève vont les mettre hors du jardin, c'est-à-dire hors de l'amitié de Dieu. Ils se mettent par le choix qu'ils font d'écouter la voix du serpent plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, ils se mettent en dehors du jardin de son amitié, de son intimité. Et du coup, la véritable image de Dieu leur échappe. Et ils prennent peur. Après le péché des origines, Adam et Ève ont peur de Dieu. Et ils se cachent. Ils se font, un pagne avec des feuilles là, et ils se cachent derrière les buissons quand le Seigneur vient se promener très naturellement, par amitié, par amour paternel, auprès d'eux. Adam, où es-tu ? Ça, c'est étonnant. Genèse 3, 9. Vous savez, on a souvent cette conviction que c'est nous qui cherchons Dieu. Et on se donne du mal pour ça. Et l'humanité, depuis des siècles, se donne du mal. Et ça nous donne de nombreuses philosophies, de nombreuses spiritualités, une ritualité très riche, foisonnante, voilà, des monuments, des livres. On cherche Dieu, c'est vrai. Ce que nous apprend la révélation biblique, c'est que c'est l'inverse. En fait, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est lui qui nous cherche. Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Et toute la Bible, toute l'Écriture sainte, c'est finalement ce long récit de la quête de Dieu pour retrouver son Fils qui s'est éloigné de lui. C'est le père de la parabole. Adam est parti avec l'héritage en claquant la porte du jardin. C'est Adam qui quitte le jardin, c'est pas le bon Dieu qu'il faut à la porte. C'est le choix de son péché qui le fait sortir de cette intimité simple, directe avec le Seigneur. Et le Seigneur prend acte de ce choix de liberté qui blesse et qui diminue la liberté d'Adam, mais qui lui permet quand même de vaquer à ses occupations et de gagner son pain à la sueur de son front, et du coup de chercher Dieu et de poser des tas de pourquoi. Et le Seigneur, lui, n'a de cesse de le retrouver, comme le bon pasteur qui va chercher la brebis perdue. Et ce bon pasteur, c'est Jésus, c'est Dieu fait homme, qui vient chercher l'homme jusque dans la mort, et qui va descendre jusque dans le séjour des morts. Voilà, aujourd'hui, nous contemplons ce bon pasteur qui est allé jusqu'à donner sa vie, et qui va jusqu'à être déposé dans un tombeau, et à connaître ce séjour des morts, ce silence de nos cimetières, pour nous y rechercher, pour nous en faire remonter, ressortir. Voyez ? Donc relisez aujourd'hui le récit de la Genèse, peut-être, hein, chapitre 3 au moins. Parce que ce que nous vivons avec Jésus déposé dans un tombeau neuf, dans un jardin, eh bien c'est la suite de l'histoire. C'est Dieu qui cherche l'homme, qui vient rechercher l'homme jusque-là, sans se satisfaire qu'il soit sorti du jardin. On va retrouver un jardin aussi dans le livre de l'Apocalypse, hein, vous pourrez aller voir, Apocalypse chapitre 22, verset 2. On retrouve l'arbre de vie, voilà, qui était au milieu du jardin de la Genèse et qui sera au milieu de la Jérusalem céleste à la fin de l'histoire. Il n'y a qu'une seule histoire de l'Alliance. Nous, régulièrement, nous rompons les alliances avec Dieu, mais dans le cœur de Dieu, il n'y a qu'une seule alliance, il n'y a qu'un seul dessein de salut, il n'y a qu'un seul projet qui n'a jamais varié. Nous sauver, nous faire participer à la vie bienheureuse de la Trinité Sainte. faire de nous des fils et des filles de Dieu à la ressemblance du Christ. Alors, autre détail que souligne saint Jean, c'est au verset 40, les Joseph d'Arimathie et Nicodème vont envelopper le corps de Jésus de bandelettes, hein, en grec « autonioïs ». Voilà, donc on enroule le corps. Alors que saint Luc, lui, au chapitre 23, verset 53, va nous parler d'un linceul, « syndonie ». Voilà. Il est possible qu'il y ait eu les deux, c'est-à-dire qu'on ait enveloppé le corps de bandelettes, hein, pour garder les membres serrés les uns contre les autres, et puis qu'ensuite il y a un linceul qui recouvert les deux. En tout cas, il y a deux termes dans les évangiles. Et puis, on mentionne la présence, bien sûr, des femmes, hein, qui étaient présentes au pied de la croix et qui vont voir aussi où on dépose le corps de Jésus, ce qui leur permettra d'y revenir au matin du troisième jour. Et nous rentrons dans le repos du sabbat. C'était le jour de la préparation, hein, qui cette année-là était la veille d'un sabbat. Et donc, on ne va plus rien faire pendant 24 heures. Et il y a comme un achèvement de la création, finalement. Vous voyez, avec ce dépôt du corps de Jésus dans le tombeau. Hein, on est au septième jour, et comme Jésus lui-même le dit sur la croix, tout est accompli. La création est accomplie. Hein, Dieu est allé au bout de ce qu'il pouvait donner à l'homme, en se faisant homme et en allant au bout d'un amour vécu avec un cœur d'homme jusqu'à donner sa vie sur la croix et jusqu'à être mis au tombeau. Et c'est au matin du premier jour de la semaine suivante que le tombeau sera découvert vide. Et donc vous voyez, j'en reparlerai cet après-midi, mais que la résurrection du Christ va nous introduire dans une nouvelle création. Ce premier jour de la semaine sera en même temps le huitième jour de la semaine de la création inaugurale. Vous voyez ? Il y a comme un accomplissement et un débordement. Hein, Dieu va ressaisir sa création de l'intérieur pour la faire monter en lui, hein, pour faire passer ce monde au Père. Voilà, nous sommes toujours dans ce désir, hein, de passer avec Jésus de ce monde au Père, de la mort à la vie éternelle. Ce qu'on peut retenir encore des récits de la mise au tombeau, si vous allez lire non seulement saint Jean 19, 38, 42, mais vous pouvez lire aussi saint Luc chapitre 23, les versets 49, 56. Chez saint Marc, c'est chapitre 15, versets 40, 47. Et chez Matthieu, c'est au chapitre 27, les versets 55 à 66. Il y a des nuances entre les récits. Ils sont d'accord sur l'essentiel, hein, c'est que le corps de Jésus est mis dans un tombeau fermé, on roule la pierre, devant témoins. Les évangélistes ont le soin de nous dire qu'il y a des témoins de la scène, notamment les femmes, et avec un embaumement rapide à cause de la proximité du sabbat qui va commencer. Et donc il faudra parfaire, reprendre cet embaumement après le sabbat. Ce sur quoi s'accordent les quatre récits évangéliques, c'est que Jésus est vraiment mort. Voyez, et on le dit dans notre credo, hein, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Pourquoi le credo précise ça? Parce que les évangiles le précisent. Et pourquoi le précise-t-il? Parce que c'est l'attestation de la réalité de la mort de Jésus. Vous savez que pour le Coran, par exemple, Jésus n'est pas vraiment mort. Hein, reprenant par là une hérésie des premiers temps de l'Église qu'on appelle le docétisme, selon laquelle Jésus aurait fait semblant, entre guillemets, d'être mort, mais qu'après il serait revenu à la vie d'aujourd'hui, à la vie terrestre, à la vie purement humaine, et qu'un autre, éventuellement, aurait pris sa place. En tout cas, là, il y a différentes versions. Mais si notre credo chrétien précise qu'il a été enseveli, c'est pour bien dire qu'il est vraiment mort. Il n'a pas fait semblant. Vous voyez, ce n'était pas une apparence. Jésus a vraiment pris notre chair. Hein, l'incarnation, ce n'est pas du pipeau. Hein, quand Dieu se fait homme, il prend toute l'humanité avec lui. Semblable en nous, en toute chose, excepté le péché. Alors là, souvent, on se dit, bon, voilà, il n'a pas joué le jeu jusqu'au bout. Ben si, parce que le péché, c'est précisément ce qui nous déshumanise. Vous voyez ? Le péché nous affaiblit dans notre humanité. Jésus, il est l'homme, pleinement homme, selon le cœur de Dieu. Et vous aurez peut-être remarqué dans l'évangile de la Passion selon saint Jean, qu'on a entendu à l'office hier soir, quand Pilate fait sortir Jésus devant la foule, hein, revêtu du manteau de pourpre et de la couronne d'épines, il dit « Voici l'homme, hein, ecce homo », ce qui a donné des œuvres d'art superbes. Et il dit « L'homme ». Voilà, c'est l'homme tel que Dieu le veut, c'est-à-dire un homme sans péché, et qui est même prêt à encaisser les conséquences du péché des autres par amour et pour les sauver. Voyez, l'homme par excellence, c'est Jésus. Tout ce qui en nous est péché n'est pas proprement humain, en tout cas ne nous humanise pas, hein, mais au contraire dégrade cette identité humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous avons reçue. Le péché nous abîme, il nous défigure. Hein, et cette défiguration que Jésus a vécu dans sa passion, il n'avait plus figure humaine, nous dit le texte d'Isaïe 53. Eh bien, cette défiguration, c'est la nôtre, en fait. Hein, c'est celle de nos péchés qu'il prend sur lui. Lui, le plus beau des enfants de l'homme, eh bien, il est défiguré parce que ce sont nos péchés qui voilent sa face. Donc, il est vraiment et pleinement homme jusqu'au bout et jusqu'à être déposé dans un tombeau. On peut lire le psaume 15 aussi en ce jour, c'est le psaume des complis au jeudi soir, qui est un psaume très adapté pour ce que nous contemplons aujourd'hui. Le psaume 15 au verset 7 à 11. Je le recherche, pardonnez-moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ce psaume, Jésus l'a prié, hein, et ça a sans doute été humainement un point d'appui pour l'espérance de Jésus face à sa passion. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Et le psaume 22 aussi, hein, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton est avec moi qui me guide et me rassure. Vous voyez, il y a déjà chez le psalmiste, hein, déjà quelques siècles avant le mystère pascal, il y a cette confiance du peuple d'Israël dans le fait que Dieu est fidèle et qu'il n'abandonnera pas ses serviteurs au séjour des morts. Et donc il y a dans le peuple d'Israël, notamment dans le courant des pharisiens, cette espérance en la résurrection finale, qu'à la fin des temps, Dieu relèvera, sortira du séjour des morts ceux qui auront été fidèles à sa loi. Il y a cette espérance en Israël. Et les psaumes l'expriment pour une part. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Le corps, d'après la tradition biblique, se corrompt dans le tombeau à partir du quatrième jour. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode de Lazare, hein, quand Jésus est appelé par Marthe et Marie pour prier auprès du tombeau de Lazare, tout en regrettant qu'il ne soit pas venu plus tôt. « Si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort », dit Marthe. Et Jésus va prier, mais Marthe lui dit « Attention Seigneur, il est là depuis 4 jours, il sent déjà. Hein, » Le corps a commencé son processus de décomposition, 4e jour. Et donc vous voyez que Jésus va ressusciter le 3e jour. Et donc pour l'Écriture et pour la foi de l'Église, le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Tu ne peux laisser, accomplissant par là l'Écriture, hein, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Voilà un psaume qui aussi nourrit, hein, notre espérance. Après le fil de l'Écriture, je voudrais suivre un peu avec vous ce matin le fil de l'enseignement de l'Église par rapport à ce samedi saint. Alors, il nous faut déjà distinguer une question de vocabulaire qui est parfois source de confusion. Je pense que vous êtes tous déjà très au point, mais je me permets quand même de le rappeler. Il faut bien distinguer les enfers de l'enfer. Dans le credo, nous disons « il est descendu aux enfers », au pluriel. D'accord ? Et non pas « il est descendu en enfer », au singulier. Voilà, la distinction est importante. Hein. Les enfers, ça vient du latin « infernorum », c'est ce qui est inférieur, hein. C'est les lieux d'en dessous, sous nos pieds, sous la terre. Ça correspond à l'expérience pratique de la mise en terre du cadavre du mort, vous voyez ? On l'enterre et donc il se retrouve sous nos pieds. Et dans une représentation spatiale du monde, eh bien, il y a la terre des vivants, voilà, c'est le niveau, le rez-de-chaussée, là où nous sommes, ou le rez-de-jardin. Hein. Et puis il y a les enfers, c'est sous terre, c'est le séjour des morts. Voilà, les catacombes, pour ceux qui connaissent à Rome, hein, ces cimetières souterrains dans lesquels on peut circuler. C'est sous terre, infernorum, ce sont les enfers. Voilà. Dans la tradition grecque, on va parler de l'Hadès. Dans la tradition sémitique, biblique, on va parler du Sheol. Et ce sont vraiment différents mots pour traduire une même conviction, c'est que à partir de l'enterrement du corps, eh bien, on va se représenter symboliquement et avec un peu d'espérance, plus ou moins diffuse, un séjour des morts avec une existence qui nous échappe, mais que l'on pressent quand même comme réelle. Il y a quelque chose qui subsiste, il doit se passer quelque chose sous terre, dans la vie d'après la mort. Vous voyez, il y a une espérance un peu diffuse hein, qui s'exprime à travers ces différents noms qu'on donne au séjour des morts. Et donc, on dit que Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est descendu dans ce séjour des morts. Et il y rejoint tous ceux qui sont morts avant lui, hein, notamment Adam et Ève. Voilà ce qu'évoquait hein, le beau texte patristique de saint Épiphane qu'on a entendu tout à l'heure. Jésus va rencontrer Adam et tous ceux qui ont vécu et qui sont morts entre Adam et lui et qui attendent une libération du séjour des morts. Voyez. Et puis on peut même aller un peu plus loin dans la foi de l'Église et de se dire que Jésus, en passant par la mort et en descendant aux enfers, ne rejoint pas seulement ceux qui sont morts avant lui, mais il rejoint tout être humain qui passe par la mort. Voyez. Puisque lui-même est passé par là. Et donc tout être humain, qu'il ait ou non connu Jésus, rencontre Jésus au moment où il passe la mort et où il descend dans ce séjour des morts. Et Jésus est là, comme le bon pasteur qui vient chercher la brebis égarée. Vous voyez ? Et on peut espérer que jusqu'au bout, il ouvre les bras hein, et il permette à celui qui meurt, dans le moment de sa mort, d'avoir cette ultime offre de la miséricorde de Dieu. Alors je voudrais vous lire le catéchisme de l'Église. C'est les numéros 624 à 628. Je ne vais pas tout lire, mais les plus curieux pourront aller voir. 624 à 628, hein, vous avez le commentaire de « Jésus a été enseveli ». Alors je lis au numéro 625. « Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son actuel état glorieux de ressuscité. C'est la même personne du vivant qui peut dire « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles » Apocalypse 1, 18. Dieu le Fils n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. C'est du saint Grégoire de Nice, vous voyez, un des pères grecs du premier millénaire, qui réfléchissait sur ce mystère du samedi saint. Voilà quelques éléments. Et alors, au numéro 632 et 634, il y a le point d'appui de ce que je vous disais. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Jésus est ressuscité d'entre les morts présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Le séjour des morts où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Shéol ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare, reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus, précise le catéchisme, numéro 633, Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Vous voyez, le catéchisme distingue bien les enfers et l'enfer. Alors, l'enfer, c'est quoi? Eh bien, l'enfer, c'est cette possibilité qu'a l'homme de refuser Dieu jusqu'au bout. Et en français, on peut faire un jeu de mots assez éclairant, je trouve. L'enfer, c'est l'enfermement sur soi-même, en refusant Dieu. Dieu ne met personne en enfer, mais l'homme peut librement s'enfermer dans l'enfer. Et du coup, c'est une privation définitive de Dieu. C'est terrible, hein? Mais c'est l'homme qui, de lui-même, se met hors du jardin. Vous voyez, hors de l'amitié divine, en disant non à Dieu jusqu'au bout. Et pourtant, Dieu sait que jusqu'au bout, Dieu aime et veut sauver, et ouvre les bras, jusqu'à laisser ses bras être cloués sur le bois de la croix. Donc Dieu est toujours ouvert à la conversion, mais c'est l'homme qui peut s'enfermer dans son refus d'aimer et dans son refus de Dieu. Et cette possibilité de l'enfer est la nécessité pour qu'on soit vraiment libre. Sinon, on serait finalement téléguidé jusqu'au salut, vous voyez, sans qu'on nous demande vraiment notre avis. Or, il y a un oui et un non que nous avons à prononcer. Et ce sera l'objet de la liturgie pascale de la veillée ce soir. Est-ce que nous disons non au péché, à ce qui nous met sur le chemin d'un enfermement en nous-mêmes? Et est-ce que nous disons oui à la foi en Dieu qui nous aime, Père, Fils et Esprit Saint? C'est ça l'enjeu de ce soir. Le carême, c'est finalement un entraînement, comme le dit la liturgie du mercredi des cendres, c'est un entraînement au combat spirituel. Parce que dans toute notre vie, notamment hors carême, hors tridium, dans toute notre vie, on est pris dans ce combat spirituel, entre le oui et le non. Est-ce que je dis oui à l'amour, oui au don de moi-même dans la charité, dans la vérité, dans la justice, ou est-ce que je dis non et je me centre sur moi-même et je m'enferme sur moi-même? Et donc le carême est là chaque année pour nous réveiller, pour nous redonner une vigilance spirituelle et pour nous donner à nouveau de choisir. Oui, Seigneur, c'est toi que je veux suivre, c'est à toi que je m'attache. Je veux vivre dans le jardin avec toi, dans l'amitié divine. Et non, je ne veux pas suivre le tentateur et toutes ses manœuvres qui voudraient m'entraîner hors du jardin, hors de la communion avec toi et de l'amour fraternel. Donc rendons grâce à Dieu pour cette pédagogie de l'Église qui chaque année nous redonne de vivre la possibilité de choisir en vérité notre baptême. Voilà, le Seigneur veut que nous soyons sauvés, mais librement. Il y a cette belle parole de saint Augustin, vous savez, Dieu t'a créé sans toi. C'est vrai, on n'a pas demandé à naître, mais on est là. Rendons grâce à Dieu. Dieu t'a créé sans toi, mais il ne veut pas te sauver sans toi. Voilà. Nous avons à participer à notre salut. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Mais le salut ne peut pas atteindre mon cœur, ma vie, si je ne dis pas oui. Voilà, il ne me force pas. L'amour est tout puissant, il peut soulever des montagnes, il peut créer le monde, il peut relever un mort, mais l'amour ne peut pas s'imposer. L'amour ne peut que se proposer. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas une évidence, voyez ? Et c'est pourquoi nous avons besoin de passer par la foi, hein, par cette confiance qui va au-delà de l'expérience immédiate, du visible et du sensible. Si Dieu était une évidence, il n'y aurait pas besoin de la foi, ce serait un constat, et il n'y aurait pas de choix. Vous voyez ? Ce serait tellement massif qu'on n'aurait qu'à dire « Amen ». Or, Dieu est amour, donc il se propose, il nous donne des signes, des indices, il nous donne une capacité de le chercher et de se laisser trouver par lui, notre intelligence, notre conscience, voilà, notre désir profond de vérité, de compréhension. Tout ça, ce sont des dispositions de l'âme que le Créateur y a mises pour que nous puissions le rencontrer, mais dans une liberté qui permettent un échange d'amour, une alliance. Voyez, Dieu ne veut pas de nous une soumission d'esclaves. Dieu veut de nous un oui dans l'alliance et dans l'amour. Et ce qui explique qu'on est un peu à cheminer dans la foi, avec des hauts et des bas, hein, avec des moments de lumière et des moments d'ombre, et où on cherche à tâtons. Voilà. C'est parce que Dieu nous veut libres et veut nous rencontrer dans la liberté partagée. Toujours selon le fil, en suivant le fil de l'enseignement de l'Église, je voudrais vous partager une conviction forte du pape Benoît XVI et vous inviter à lire, ou à relire peut-être pour certains, cette belle encyclique qui s'appelle « Spe Salvi », hein, « Sauvé dans l'espérance ». C'est une encyclique sur l'espérance. Et aujourd'hui, samedi saint, c'est vraiment le jour de l'espérance. Benoît XVI nous dit plusieurs choses importantes dans cette encyclique, j'en retiens deux. La première, c'est qu'il nous dit la foi est la substance de l'espérance. La foi est la substance de l'espérance. Autrement dit, si je n'ai pas de foi, si ma foi est fragile, si elle n'est pas nourrie, mon espérance ne sera pas forte. Il y a une corrélation entre ces deux vertus. Vous savez que le baptême nous a donné, a infusé dans notre âme, a mis en nous trois vertus qu'on appelle théologales. Parce qu'il y a des vertus morales qu'on peut acquérir par nous-mêmes, par l'éducation, voilà, par l'exercice de choix positif, bon. C'est tout l'enjeu de l'éducation, hein. Faire passer un petit enfant à un adolescent, à un adulte, c'est le faire grandir dans les vertus. C'est-à-dire dans une capacité à poser des choix constructifs, bons, respectueux de lui et des autres. Bon. Ça, c'est les vertus morales, hein, la force, la tempérance, la justice et la prudence. Mais il y a trois vertus théologales, c'est-à-dire qui nous sont données par Dieu. On ne peut pas se les donner à soi-même. Elles nous sont données avec la grâce du baptême. Mais des vertus, ça veut dire que ce sont des dispositions intérieures qui peuvent grandir ou diminuer selon que je m'en sers ou que je m'en sers pas. Vous voyez ? C'est un peu comme les biscottos, les muscles. Si je ne me sers pas d'un muscle, que se passe-t-il ? Il s'atrophie. Il est toujours présent dans mon anatomie, dans mon corps. Mais il a de moins en moins de capacités. Il sert de moins en moins. À l'inverse, si j'ai une vie saine, voilà, que je mange suffisamment, que je fais un peu de sport, eh bien les muscles sont en bonne santé. Et ils servent. Voyez ? Eh bien, les vertus, ce sont des muscles. Et donc, ces vertus qui viennent de Dieu et qui me conduisent à Dieu, les vertus théologales, on pourrait traduire des forces baptismales, vous voyez, ce sont trois grandes forces qui nous sont données au baptême, eh bien, elles peuvent grandir. Et figurez-vous même qu'elles peuvent grandir à l'infini. Vous voyez, mon biceps, je pourrais faire du bodybuilding, il va quand même atteindre des limites à un moment donné. Hein. Heureusement d'ailleurs. Ma foi, mon espérance et ma charité, elles viennent de Dieu, elles vont à Dieu, elles participent de la nature de Dieu, et bien Dieu étant infini, elles peuvent croître à l'infini. On n'a jamais fini de grandir dans la foi, et donc dans l'espérance, puisque la foi est la substance de l'espérance, et on n'a jamais fini de grandir dans la charité. Tout l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est de grandir dans la charité. Pourquoi nous communions à la messe? Pourquoi nous participons à l'Eucharistie? Quel est le fruit de l'Eucharistie? C'est la charité. Le fruit du sacrement de l'Eucharistie, quand je le reçois avec un cœur disposé, c'est la charité. Mais il ne s'agit pas d'aller à la messe pour aller à la messe. Il ne s'agit pas d'obéir à un règlement. Il s'agit d'aller à la source qui me permet de recevoir la vie de Dieu, et cette vie de Dieu va faire croître en mon âme, en mon cœur, en moi, ses capacités de croire, d'espérer et d'aimer. C'est une nourriture. C'est aussi simple que ça. J'ai le droit de ne pas aller déjeuner, hein. Il n'y a pas un règlement qui m'oblige à aller déjeuner, vous voyez. Bon, hier, on l'a fait, on n'a pas beaucoup mangé. Ben, on voit ce que ça donne, hein. On n'est quand même pas très fort en fin de journée, vous voyez. On peut s'amuser à ça quelques jours, peut-être, hein. Mais on n'ira pas courir un 100 mètres, on ne fera pas un travail de force. Vous voyez, ce n'est pas une question de règlement. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste essentiel, c'est juste vital. Nous ne trompons pas de plan. Hein. Il ne s'agit pas d'être dans le droit chemin au sens juridique du mot. Le droit de l'Église, voilà, qui nous invite à aller à la messe tous les dimanches, à nous confesser et à communier au moins une fois l'an. Vous savez que depuis le Concile du Latran, hein, 1215, c'est le minimum syndical. Hein. Si vous ne voulez pas mourir spirituellement, il faut au moins se confesser et communier une fois l'an, faire ses Pâques, comme dit le langage populaire. Voilà, mais c'est vraiment le minimum minimorum. Hein. N'allez pas en dessous, sinon c'est la mort clinique assurée, hein, au plan spirituel. Par contre, on peut faire mieux, on peut faire plus, vous voyez. Parce que, encore une fois, la foi, l'espérance et la charité sont des vertus qui peuvent grandir à l'infini. Donc n'ayons pas peur d'y aller, hein. Et je corrèle ça avec une autre constatation que le cardinal Barbarin a partagée aux jeunes, là. Je crois que c'était au forum d'hiver. Il leur a dit, vous savez, les biens matériels, quand on les partage, ils diminuent. Et j'ai un beau gâteau, je le coupe en quatre. Bon, ben, j'ai qu'un quart. S'il faut partager, j'ai qu'un quart au lieu d'avoir tout le gâteau. Vous voyez ? Ça, c'est les biens matériels. Bon, ce qui pose des problèmes au moment de l'héritage en général, vous voyez ? Mais les biens spirituels, et c'est le cas de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est l'inverse. Plus je les partage, plus ils grandissent. Extraordinaire. Plus je partage ma foi, plus elle grandit. Plus je témoigne de mon espérance, plus elle se fortifie. Plus je vis dans la charité, plus l'amour grandit dans mon cœur. Plus je pose même des petits actes de charité, plus la charité grandit. C'est la fameuse épingle ramassée par amour de Thérèse de Lisieux. Vous voyez ? Ça nous fait toujours sourire, cette affaire-là, ramasser une épingle par amour. Oui, bah d'accord, c'est bien gentil. Enfin, ça n'est jamais que ramasser une épingle. Oui, ça n'est que ramasser une épingle. Ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, ça change le cœur de Thérèse. Parce que ça fait grandir en Thérèse ce muscle de la charité. Vous voyez, cette force intérieure de l'amour, qui est un amour de qualité divine. Extraordinaire, hein ? Donc on va pratiquer, vous voyez, hein, la foi, l'espérance et la charité, là, en les mettant en œuvre. Et donc aujourd'hui, face au tombeau de Jésus, alors qu'il n'est plus, alors que la pierre est roulée, eh bien on est vraiment appelé à poser un acte de foi, et donc aussi un acte d'espérance. Ça ne va pas s'arrêter là. Et vous voyez, à la fin de l'office des ténèbres, il reste une seule bougie allumée. Il me semble qu'on peut y voir cette vertu d'espérance, hein, qui repose sur la foi, sur la confiance en Dieu. Voilà, c'est l'espérance de l'Église qui subsiste, hein, envers et contre tout. Et aujourd'hui, samedi saint, cette espérance de l'Église, elle est portée par une personne, c'est Marie. Voilà, au pied de la croix se tenait Marie, Stabat Mater. Hein, Marie, c'est vraiment la femme de foi, dont la foi n'a pas vacillé. C'est comme ça que la tradition la contemple dans le mystère pascal. Comme mère, elle a souffert, hein, le glaive de douleur a transpercé son cœur, c'est la Pietà qui reçoit le corps mort de son fils sur ses genoux, mais avec toute cette douleur maternelle, elle continue à porter la foi parce qu'elle a entendu la parole de l'ange. Tu concevras le Fils du Très-Haut, il sera grand. Elle entend toujours dans son cœur les paroles de Gabriel. Alors l'expérience qu'elle vit est à 180 degrés, est à l'opposé. Elle pourrait se dire, tout ça, ce n'est que du baratin. Marie aurait pu se révolter contre Dieu, comme Adam et Ève. Souvent, on me dit, mais oui, mais Marie, elle est Immaculée Conception, donc patati patala, sous-entendu, c'est facile pour elle. Ben non, Marie, elle a les mêmes dispositions de cœur et d'âme qu'avaient Adam et Ève, c'est-à-dire qu'elle est libre. Elle pourrait mal user de sa liberté. Elle pourrait suivre aussi la voie du serpent. Se dire, attends, l'ange, il m'a promis que mon fils serait le fils du Très-Haut, qu'il serait sur le trône de David, son père. Et en fait, de trône, il est sur la croix, là, entre deux malfaiteurs. Et Marie ne s'est pas révoltée. Marie a continué dans la nuit à faire confiance. Et dans la nuit, vous voyez cette bougie unique qui demeure, c'est la foi de l'Église portée par le cœur de Marie. Et donc, elle porte l'espérance, non seulement de l'Église, mais finalement de l'humanité, vous voyez, face à tous les drames que nous rencontrons, quand tout semble obscurci, il y a toujours cette espérance que porte Marie. Donc tournons-nous vers elle. Quand nous-mêmes, nous sommes dans la nuit de la foi, eh bien appuyons-nous sur la foi et l'espérance de Marie qui subsiste. J'en arrive à la vie de Dizier. Ah oui, une deuxième chose que disait Benoît XVI, pardon, je me suis un peu emballé là. Dans Spe Salvi, Benoît XVI nous dit donc que la foi est la substance de l'espérance. La substance, c'est ce qui porte. Vous voyez, si vous êtes allé à l'inauguration d'une statue, en général, on recouvre la statue d'un beau drap, là, avant l'inauguration officielle. Et donc, on devine un peu la forme de la statue sous le drap. Et bien, c'est ça la substance, vous voyez. En fait, sub stare, dans l'étymologie latine. Se tenir sous. Donc, on pourrait comparer la statue à la foi et l'espérance à la forme de l'ensemble avec le drap au-dessus. Vous voyez, hein, c'est la foi porte l'espérance. Elle est ce qui soutient l'espérance. Et l'espérance va déployer la foi au-delà de l'actualité, au-delà du moment présent, en atteignant déjà les biens du monde à venir. Et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire de Spe Salvi, là, de Benoît XVI, c'est qu'il a cette formule extraordinaire. Il nous dit « L'espérance, par la foi, attire l'avenir dans le présent. » C'est au numéro 7 de Spe Salvi. Vous voyez ? Par la vertu de foi et d'espérance, l'avenir est attiré dans le présent. Autrement dit, l'avenir est déjà présent. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est présent au milieu de vous. Pour un chrétien, la vie éternelle, c'est pas après la mort. Pour un chrétien, la vie éternelle, elle est commencée depuis la résurrection de Jésus et elle m'a été communiquée par mon baptême. Et donc, je suis déjà, pour une part, dans la vie éternelle. Et donc, le passage de ce monde au Père, ce n'est pas simplement un passage au moment de ma mort, mais c'est un passage que je peux déjà vivre par la foi et dans l'espérance et la charité. Donc, plus je grandis dans la foi, plus mon espérance est nourrie et se déploie, plus je vis dans l'amour, et bien plus je suis déjà dans la vie éternelle. Et les saints et les saintes, ce sont finalement ces témoins, on pourrait dire ces sentinelles, pour reprendre une expression chère à Jean-Paul II, du royaume qui est déjà là. Ils nous manifestent que le royaume de Dieu est déjà là, que la vie éternelle est déjà commencée. Et donc, dès cette vie présente, nous pouvons grandir de cette vie éternelle. Elle peut s'épanouir en nous et porter de nombreux fruits. C'est tout l'enjeu de notre chemin de foi et de vie chrétienne. Alors, pour ce qui est de notre fil, du fil de notre vie de disciple, je voulais vous inviter. Hier, on a regardé deux figures de disciples, Judas et Simon-Pierre. Aujourd'hui, on peut regarder cette belle figure des saintes femmes. Voilà, de ces quelques femmes qui ont bravé le risque et le danger, les moqueries aussi en suivant Jésus jusqu'à la croix, qui seront aussi les dernières à voir où il est déposé, au tombeau, avant d'y revenir au matin de Pâques. Voilà, demandons-nous, en les regardant, quels disciples nous sommes face à la croix que portent les autres. Est-ce que nous nous enfuyons devant la souffrance de l'autre, ou est-ce que nous osons nous tenir à côté de l'autre dans sa souffrance, dans son épreuve? On n'a pas forcément la solution, bien sûr, mais être là. Vous voyez l'importance que ça a dû avoir pour Jésus de voir qu'il y avait quelques-unes de ses plus proches qui étaient là, au moment ultime. Donc regardons, quels disciples sommes-nous? Allons-nous jusqu'au pied de la croix de nos frères et sœurs qui souffrent? Sommes-nous des hommes et des femmes de compassion? Voilà, demandons un cœur compatissant. Et puis une deuxième question, peut-être pour nourrir notre prière personnelle qui va pouvoir avoir lieu maintenant et dans la journée. Ma foi s'épanouit-elle dans l'espérance ? Voilà. Est-ce que ma foi débouche, vous voyez, s'ouvre sur l'espérance ? Et on peut demander au Seigneur de faire grandir notre foi, d'épanouir notre espérance. Est-ce que nous sommes prêts, comme nous y invite la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15, à rendre compte de l'espérance qui est en nous ? Saint-Pierre dit aux baptisés à qui il écrit, « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Voilà. » Est-ce que je suis capable de mettre des mots simples, les miens, pour dire à quelqu'un que je croise dans une conversation, qu'elle soit prévue ou imprévue, de dire en peu de mots mon espérance ? Ça, c'est hyper important, hein ? Ça dépend de chacun de nous. Il ne s'agit pas de dire des formules toutes faites du catéchisme. Il s'agit de les intégrer et d'être capable de les dire avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a vécu. Évangéliser, c'est pas avoir réponse à tout. Évangéliser, c'est témoigner simplement de la foi et de l'espérance qui m'habitent, moi. Appuyer sur la foi et l'espérance de l'Église. Mais il s'agit de le dire personnellement en disant « je ». Ce soir, dans la veillée pascale, nous dirons « je ». Oui, je crois. Oui, je renonce. Vous voyez, il s'agit bien de se positionner personnellement. Voilà, frères et sœurs, restons dans la paix de ce samedi saint devant le tombeau de Jésus. Il est fermé, le corps de Jésus y repose. Nous sommes dans cette attente, dans cette espérance. On va terminer en se confiant à la mère de toute espérance qui a porté celle de l'Église au grand samedi saint.